Mais d'abord, c'est la revue de la presse internationale. Frédéric Couteau, à la une ce mercredi, l'Ukraine et Israël, deux poids, deux mesures.
Si les alliés occidentaux peuvent abattre des drones iraniens en direction d'Israël, pourquoi ne peuvent-ils faire la même chose pour l'Ukraine? La question posée par une journaliste américaine à John Kirby lundi, cette question a visiblement embarrassé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, c'est ce que constate le Figaro à Paris. Différents conflits, différents espaces aériens, différentes menaces, a éludé le responsable américain. De fait, pointe le quotidien français, lorsque l'Iran a envoyé ses drones et ses missiles contre Israël le 13 avril, l'État hébreu a bénéficié de l'assistance immédiate et directe des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France pour intercepter les projectiles.
Et pendant ce temps, poursuit le Figaro, l'Ukraine continue d'être harcelée par les bombes, missiles et drones russes.
Oui, ces derniers sont pour certains des drones Shahed de fabrication iranienne, identiques à ceux utilisés le week-end dernier par Téhéran, mais pour les intercepter, l'armée ukrainienne ne peut compter sur l'aide directe de ses alliés. Elle doit se satisfaire de livraisons d'aides militaires occidentales qui sont en baisse ces derniers mois, sur fond de blocage politique aux États-Unis et plus largement de tensions sur les stocks en Occident. La pénurie en matière de munitions et de systèmes antiaériens se fait déjà ressentir en Ukraine, alors que les Russes, ces dernières semaines, sont parvenus à frapper et à endommager gravement plusieurs centrales de production d'électricité.
Et hier, le président ukrainien a encore dit toute son amertume, rapporte Le Monde, toujours à Paris.
Après avoir exprimé la veille le sentiment de frustration de son pays vis-à-vis de la différence, selon lui, entre l'aide directe que plusieurs pays alliés ont apportée à Israël pour contrer l'attaque aérienne de l'Iran et celle dont bénéficie l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a de nouveau évoqué le sujet dans sa vidéo quotidienne, appelant ses alliés à augmenter leur aide à Kiev et à accorder la même valeur à chaque vie.
Le Guardian à Londres s'interroge, qui va financer la défense de l'Ukraine?
Le Congrès américain a finalement annoncé son intention de soumettre au vote du Parlement un programme d'aide militaire à l'Ukraine, bloqué depuis des mois en raison du scepticisme des républicains. En attendant un feu vert encore très hypothétique, l'aide occidentale est au point mort, constate le Guardian, et depuis des mois, l'Ukraine est aux prises avec trois défis urgents, l'insuffisance de munitions, l'insuffisance de missiles de défense aérienne et le manque de troupes expérimentées.
À la une également ce matin, Frédéric, 100 jours avant les Jeux Olympiques de Paris.
Oui, avec ce dessin publié dans le quotidien belge Le Soir, dessin qui nous montre des Français râleurs. C'est nul, ça va nous ruiner, affirme l'un. On ne pourra plus circuler, peste un autre. Il y aura des attentats, ça va péter partout, s'inquiète un troisième. De toute façon, on n'aura pas une seule médaille, fulmine encore ce quidam coiffé d'un béret. Des Français râleurs donc, et un président qui a plombé l'ambiance avant-hier, rapporte Libération. En effet, Emmanuel Macron a douché son monde en évoquant les plans B et C de repli si d'aventure la cérémonie d'ouverture ne pouvait pas se tenir sur les bords de Seine comme prévu pour des raisons de sécurité. Le message essentiel retenu aura donc été celui de la sécurité, déplore Libé. Certes, pointe le journal, risque terroriste, guerre en Ukraine et au Proche-Orient, c'est peu dire que les idéaux olympiques de paix et de fraternité ont bien du mal à se frayer une petite place parmi ces actualités plus dramatiques les unes que les autres. Elles expliquent peut-être que les Français n'ont manifestement pas encore les JO dans la tête. Un récent sondage les décrit inquiets ou indifférents. Il reste 100 jours, conclut le journal, pour tordre le bras à cette réputation qui veut que les Français râleurs, forcément râleurs, laissent depuis des années leur sens de la fête au vestiaire.
Enfin, question essentielle posée par le New York Times, l'équipe olympique française sera-t-elle la mieux habillée lors de la cérémonie d'ouverture?
En effet, la ligne de vêtements des athlètes tricolores a été dévoilée hier, un smoking bleu revisité par la maison Berluti qui appartient au français LVMH, le plus grand conglomérat de luxe au monde, précise le quotidien américain, une ligne de vêtements qui offre, selon le journal, une version allégé du fameux triptyque luxe, calme et volupté.
Merci Frédéric Couteau. J-100 avant les JO, c'est une journée spéciale sur RFI. Ces Jeux de Paris seront-ils les plus verts de l'histoire? Ce sera notre question d'environnement dans quelques minutes. On sera aussi en ligne avec deux médaillées des Jeux. Françoise Mbango en triple saut, Sarah Danint en escrime. Elles seront les consultantes d'RFI pendant la quinzaine olympique. Mais d'abord, direction Olympie.